RTF.
Bonjour, c'est Eric Guevara-Fray de l'émission Tout un Monde. On est là avec Patrick Chaboudet. Bonjour Patrick.
Bonjour Eric.
Pour lancer la première série du nouveau podcast de la RTS, il s'appelle Zoom Info. Dans ces deux épisodes, on va revisiter l'obscurité d'une époque qu'on pense connaître, mais dont les racines profondes sont méconnues. Et ce qui s'est passé à ce moment a des résonances. Aujourd'hui, quand on voit la tentation autoritaire, les reflux démocratiques, cette époque, c'est ce qui s'est passé entre 1919 et 1945, c'est-à-dire une génération à peine, comment en Allemagne un groupuscule parmi d'autres, les nazis, arrive au pouvoir avec la complicité des partis traditionnels? Comment il promet d'instaurer un Reich millénaire, provoque la mort de dizaines de millions de personnes et dans sa défaite, laisse une Europe en ruine?
Oui, alors j'ai discuté avec Johann Chapoutot des conditions qui ont permis l'émergence du nazisme. L'idée principale à retenir est que cette idéologie ne naît pas de rien, ni d'une seule personne, comme Adolf Hitler. Les idées qui ont fondé le nazisme n'étaient pas nouvelles, mais elles ont été poussé à une radicalité extrême. C'est le sujet de son livre « Le monde nazi » dans lequel l'historien et ses deux co-auteurs, Christian Ingrao et Nicolas Patin, analysent ce régime politique, ses racines, ses pratiques et ses conséquences mortifères.
Un parti nazi qui, dès le début, a exploité les technologies modernes pour manipuler, pour séduire les masses. Que nous enseigne d'ailleurs cette stratégie sur les leaders politiques contemporains? On va le découvrir dans cette interview, Patrick. La première idée reçue à déboulonner, eh bien, c'est que l'idéologie nazie ne sort pas de nulle part.
On a voulu situer en contexte le phénomène nazi qu'on a tendance à présenter comme une sorte d'aérolithe qui surgit du néant ou de je ne sais où et qui frappe la Terre comme ça, en plein cœur de l'Europe, sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Or, c'est un phénomène historique, social, intellectuel, culturel, très situé dans une sorte de bain de culture, si vous voulez, qui est celui de l'Europe et de l'Occident de la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est là que les fondamentaux se mettent en place, que l'on va retrouver ensuite dans le nazisme. En l'occurrence, c'est le racisme qui arme la colonisation européenne. C'est l'antisémitisme qui, au passage, n'est pas plus virulent en Allemagne qu'ailleurs. C'est le darwinisme social, c'est-à-dire cette idée selon laquelle les hiérarchies sociales sont dérivées des hiérarchies naturelles. C'est également l'eugénisme qui apparaît comme la pointe de la science à l'époque. C'est également l'impérialisme et c'est également le capitalisme tel que nous le connaissons depuis les années 1850, c'est-à-dire sans aucune pitié ni pour les individus ni pour l'environnement.
Et dans les années 1920, Patrick, le parti nazi n'est qu'une formation parmi beaucoup d'autres au sein de l'extrême droite en Allemagne.
Oui, après la Première Guerre mondiale, il y a des dizaines de partis, de groupuscules qui se créent dans la mouvance Völkisch. Alors c'est un mot difficile à traduire, c'est un courant intellectuel et politique qui prend naissance à la fin du 19e siècle, un mélange de populisme et de nationalisme.
Völkisch, ça vient de Das Volk, hein, le peuple, mais un peuple conçu au sens ethno-nationaliste du terme. C'est-à-dire, ce n'est pas le peuple de la Révolution française, le peuple du contrat, du libre choix, de la libre adhésion. C'est un peuple qui est défini par une nécessité naturelle, par une détermination biologico-naturelle. Et à partir de là, donc, il s'agit de battre en brèche toutes les idées fondamentales issues de la Révolution française, en termes politiques, économiques, sociaux, etc. Et ce sont des partis ultranationalistes, d'extrême droite, racistes, antisémites, colonialistes à Paris, etc., et qui prétendent être un peu sensibles à la condition ouvrière. Et c'est pour ça que le parti nazi s'appelle Parti National Socialiste des ouvriers allemands. C'est le nom du NSDAP. Mais il y en a plein d'autres comme ça, et en fait ce sont des leurres, en fait, hein, qui visent à réorienter des masses populaires potentiellement révolutionnaires, en Allemagne en 1918 c'est le cas, de l'internationalisme communiste par exemple, vers le nationalisme le plus strict.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce parti parmi tant d'autres se distingue? Est-ce que c'est dû quand même à la personnalité particulière d'Adolf Hitler, de ceux qui l'entourent?
Alors forcément, puisque dans toute cette nébuleuse de partis, de mouvements, il y en a des dizaines, hein, c'est lui qui s'impose. Et il se trouve que le parti nazi est peut-être le mieux financé dès le début des années 20. Il est financé par la bourgeoisie munichoise, bavaroise, puisque, encore une fois, il s'agit de financer quelque chose qui va enlever le vent des voiles de la Révolution, si vous voulez, en captant l'énergie prolétarienne. Il est très bien financé et il est surtout très professionnalisé. avec un appareil administratif interne qui, de fait, assez tôt, fonctionne très bien, et d'autant mieux après le putsch raté, après l'emprisonnement de Hitler, à partir de 24-25, vous avez vraiment une structure professionnelle qui se met en place, avec une réflexion très intelligente. Alors ça, c'est dû à Goebbels, hein, qui est vraiment le petit génie de ce groupe de fondateurs. Goebbels qui pense la réalité politique en termes de marketing, très clairement. Et vraiment, il s'agit de segmenter la population allemande en divers groupes, auxquels on va s'adresser de manière différenciée et adaptée à chaque fois. On va s'adresser aux profs, on va s'adresser aux avocats, aux sportifs, aux militaires, machin, avec chaque fois un appareil qui est consacré à ça. Et tout cela porte ses fruits, parce que de fait, les nazis arrivent à ramasser dans leur filet un électorat de plus en plus considérable.
Et ce qui distingue aussi le parti nazi, Patrick, c'est son utilisation des nouvelles technologies.
Oui, alors celle de l'époque, hein, bien sûr, la radio, vecteur important pour diffuser les discours d'Hitler, le cinéma pour les films de propagande, et puis l'avion également.
Dans les campagnes électorales quasi permanentes qui se déroulent à partir de 1929 en Allemagne, Hitler utilise l'avion pour être dans trois endroits en même temps en Allemagne, avec cette idée d'une ubiquité géniale, et avec un Goebbels qui, là encore, très habilement, construit la figure d'une espèce de génie messianique, etc., en utilisant la force rhétorique d'Hitler. C'est la seule chose qu'il sache faire, en réalité, c'est parler, et il parle bien. Il arrive sur scène à exprimer tous les affects profonds, si vous voulez, de la population allemande, l'espoir, la rage, la haine, la crainte, la colère, etc. Il arrive à capter, et il sait rien faire d'autre, mais c'est déjà beaucoup. Et derrière ça, vous avez un Goebbels qui, très clairement et très consciemment, a construit un produit marketing avec toutes les ressources de la technologie contemporaine.
Dans les méthodes encore, il y a aussi ce discours assez paradoxal, parce que le parti nazi très rapidement utilise la rue, puisque c'est un nouvel espace politique. Il l'occupe avec violence, et en même temps, il se présente comme un parti victimaire.
Alors, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans les extrêmes droites contemporaines. Hein. On est soi-même une bande de cogneurs, mais par ailleurs, évidemment, on peut rien dire, il y a le politiquement correct, et on est toujours victime. Hein. Ça se retrouve de manière structurelle chez Trump aujourd'hui, hein. C'est une espèce d'auto-déploration permanente, de lamentation permanente. Et les nazis sont tout à fait là-dedans. En l'occurrence, ils disent qu'eux combattent chevaleresquement pour la cause de l'Allemagne nationale, et ils sont victimes de la chafouinerie odieuse des sociodémocrates, des communistes, c'est-à-dire des juifs, derrière tout cela, bien entendu. Idem pour leur conception de l'histoire. L'Allemagne est victime, tout le temps. L'Allemagne qui ne veut que le bien, qui a créé toute civilisation, selon eux, eh bien l'Allemagne est victime d'un complot judéo-bolchevique plurimillénaire qui vise à exterminer, c'est le terme qu'ils emploient, la race germanique. Donc les nazis et, selon eux, l'Allemagne se trouvent toujours en position d'autodéfense et donc en position légitime de violence.
Et c'est un discours qui fonctionne ?
Oui, c'est très efficace, et notamment à partir de la crise de 1929, très durement ressentie en Allemagne, parce que l'économie est quasi sous perfusion de capitaux américains qui disparaissent, bien sûr, après le krach de 1929, et l'impact est brutal. Il y a plus de 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932, près de 8 millions sans travail à plein temps.
C'est une Allemagne qui connaît la famine, à nouveau. C'est une Allemagne où des pathologies anciennes réapparaissent, tuberculose, gale, etc. Et les nazis arrivent à dire le sentiment, ou le ressentiment plutôt, d'une partie de la population allemande. Vous êtes victime et nous sommes là pour vous expliquer la rationalité qu'il y a derrière. Il y a un complot, on a des ennemis, ils sont cachés, et on va combattre ça. Et l'habileté nazie, elle est double, c'est-à-dire que non seulement on vous propose une herméneutique totale du réel, une interprétation qui vous permet de tout comprendre, et par ailleurs, on vous offre une sorte de compendium de recettes pour vous sortir de ça. La promesse nazie, c'est pas seulement la déploration lacrymale. Effectivement, on se plaint, mais on vous offre une série de solutions qui va permettre à l'Allemagne tout simplement de sortir de l'histoire.
Mais avec une vision du monde et de l'avenir, hein, cette promesse d'un Reich millénaire, donc on voit bien que c'est davantage qu'une simple idéologie.
Et Patrick, il y a un autre catalyseur, si on peut dire, la défaite de 1918.
Oui, elle est refusée. Elle est refusée par les nationalistes allemands, par les militaires qui parlent de coups de poignard dans le dos. L'armée aurait été vaincue non pas dans les tranchées, mais à cause des républicains et des socialistes juifs de l'arrière.
C'est une défaite qui n'est pas du tout comprise par la population allemande. Hein. Le 11 novembre 1918, l'armée allemande se trouve en banlieue de Reims, donc très avancée en territoire français. Ça a du mal à passer. Ensuite, les conséquences de la défaite, elles sont terribles. Le traité de Versailles, bon. moins 15% de territoire, moins 15% de population, fin des brevets, fin de l'armée, fin de l'armement, fin des colonies. Donc c'est un vrai traumatisme, d'autant plus qu'il y a 2,5 millions morts, si on compte les civils, et qu'il n'y a rien pour donner sens à la défaite. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, on est mort pour le Reich, oui, mais le Reich n'existe plus. On est mort pour le Kaiser, il est parti sans laisser d'adresse, et puis on est mort pour Dieu, manque de peau, on est en pleine déchristianisation. Donc faire son deuil dans ces conditions-là, c'est difficile. Les nazis vont répondre à ça, et c'est une de leurs grandes forces.
Et à la fin des années 20, le parti nazi là, a acquis une plus grande visibilité.
Alors déjà dans l'espace public, avec ses troupes de choc, et puis en représentation politique également, même si elle reste minime, 12 députés au Reichstag lors des élections de 1928. Et puis les nazis sont également cooptés par la droite en 1929 lors d'un plébiscite contre un plan sur les réparations de guerre exigées de l'Allemagne.
Tout simplement parce que c'est une volonté de la droite de l'époque d'associer le parti nazi et sa structure militante, assez professionnelle et impressionnante, à un plébiscite contre le plan Young. Le plan Young, c'est un plan de rééchelonnement des réparations que doit payer l'Allemagne. La droite fait campagne contre ça, et on agrège les nazis à ça. Et c'est la première fois qu'on voit un Hitler partager la tribune avec des généraux, avec des banquiers, avec des industriels, avec des figures classiques de la droite bourgeoise. Et il y a une espèce d'effet rétinien qui fait que, ça y est, on l'a identifié, on l'a photographié, et dès lors, lorsque la crise arrive et que les nazis montent en charge propagandistique, on voit qui c'est. Et on voit que ce monsieur qui parle un peu fort, au fond, fréquente des gens très bien.
Oui, ce monsieur qui parle un peu fort va encore forcer la voix et deviendra, au début des années 30, une figure incontournable, mais que les politiques traditionnelles croient pouvoir manipuler.
Et ça, c'est le programme du deuxième épisode de cette mini-série consacrée à l'ouvrage Le Monde Nazi de Johann Chapoutot. Il vous attend déjà dans notre nouveau podcast Zoom Info.